Bonjour à tous. Il y a pire que de se faire introduire le culte par sa femme. Et comme elle disait, c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés et qu'on a discuté un peu sérieusement, on a parlé sur la louange. Sujet qui, moi, me parlait pas trop à l'époque, hein, puisque j'étais plus dans la connaissance biblique que dans l'expression, on va dire, de ma louange. Et heureusement, une femme, ça change un homme, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, ça nous change encore plus. Et quand il nous ouvre un peu les yeux, on se rend compte que bah, ce matin, on a pu s'élever un peu par la louange et se rapprocher un peu de notre Seigneur. Et on va continuer par un message que je vais vous apporter. Et on a travaillé un peu ensemble avec Christine pour ce culte. Donc je vais parler aussi sur la montagne. J'ai pas pris mes notes, mais c'est pas grave, parce que quand il y a le Saint-Esprit, est-ce qu'on a besoin de notes? Ça va le faire. Est-ce que tu peux nous mettre l'image, s'il te plaît? Voilà, il va zoomer un peu. Moi, la montagne, ça me parle, parce que petit, chez mes grands-parents, il y avait cette image qui était encadrée. Bon, je sais pas si j'aurais dû la voir en tant que petit enfant, parce que c'était un peu effrayant quand même. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça représente. En bas... Je fais un cours magistral et j'ai un assistant, c'est parfait. En bas, vous voyez deux portes. Une porte étroite, n'est-ce pas? Et une porte large. Et on voit une ascension difficile sur la droite, avec peu de personnes, alors que sur la gauche, le chemin large, on a plein de monde. La voie est large et facile. Et on voit certains plaisirs de la vie. On voit des gens qui dansent, qui boivent, qui jouent, etc. Et puis, plus on monte et plus on avance, plus l'ascension à droite est ardue et longue, même si on rencontre de temps en temps des personnes pour nous encourager, ou des églises sur le trajet. Tandis qu'à gauche, petit à petit, ben, on va avoir des gens qui se battent, des gens qui se blessent, qui se tuent même. Et puis tout en haut, on va avoir quelque part à droite une montagne élevée avec la Jérusalem céleste qui nous attend, l'arc-en-ciel qui est le symbole de notre promesse aussi que Dieu nous a faite par rapport à notre terre actuelle. Tandis que sur la gauche, c'est là où c'était un peu effrayant petit, on voit ce côté de destruction, on voit des démons, des flammes, de la fumée. Et il y a plein de petits versets, alors vous les voyez pas de là où vous êtes, mais vous pourrez retrouver ça facilement sur internet, plein de petits versets qui illustrent à droite à gauche, puisque la personne qui a réalisé cette œuvre, un peu comme le voyage du pèlerin de Bunyan, où il cite régulièrement des versets de la parole pour exprimer un petit peu son allégorie, la personne a mis aussi des versets sur cette œuvre. Et donc petit, ma vision de la vie chrétienne, ça a été ça pendant des années. Une montagne, une voie étroite, escarpée, et il fallait grimper. Cette idée que quelque part, au final, un petit peu, j'allais gagner mon salut par mes efforts, en allant jusqu'au bout de cette ascension, et que si je m'arrêtais avant, c'était fini de moi. Idée un peu fausse, évidemment. On le comprend bien. Si je vous demandais aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes encore en bas, hésité entre les deux portes? Est-ce que vous êtes presque là-haut? Difficile hein, de se situer. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur la montagne, mais je vais commencer en ne parlant pas de montagne, parce que je pourrais passer des heures à citer des versets bibliques, mais c'est pas rigolo. On les connaît pour la plupart, et vous pouvez les lire chez vous. Mais le Seigneur m'a mis à cœur autre chose ce matin. Si tu peux nous mettre les premiers versets dans Jean, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et je vais vous parler d'un aveugle de naissance. C'est bien, hein? S'il y avait un inspecteur dans la salle, il me dirait « Vous êtes hors sujet, monsieur. » Un aveugle de naissance. Mais pourquoi? Lisons ces quelques versets dans Jean 9, les versets 1 à 7, si vous voulez suivre. Sinon, ça va être projeté. Qu'est-ce qui se passe dans Jean? Un passage qui, moi, m'a intrigué. Et vous savez, peut-être, si vous avez écouté un petit peu certaines de mes prédications, que j'aime aller fouiller là où ça m'intrigue. Que j'aime aller explorer les choses qui me paraissent difficiles en première lecture. Que j'aime essayer de comprendre, mais pourquoi? Si c'est là, il y a bien une raison. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Alors qu'est-ce qui me gênait dans ce passage ? On reste beaucoup sur ces versets qui nous disent que Jésus est la lumière du monde. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi il fait de la boue pour guérir un aveugle. Est-ce que c'est le premier aveugle qu'il guérit ? Est-ce que les autres, il lui a pas suffi de dire « Vois » ou « Lève-toi, marche », n'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin juste d'un mot et la personne était guérie ? Parfois même sans mot, on pense aussi à cette femme qui a seulement touché Jésus et qui a été guérie. Et là, on a l'impression qu'on a un Jésus qui fait un peu de chimie, qui fait un truc, il fait le show peut-être pour les gens qui sont là. Pourquoi fait-il de la boue ? Est-ce que vous avez une réponse ? C'est compliqué. On peut penser que ce serait nécessaire parce que c'est un miracle quand même un peu plus balèze. C'est pas un aveugle qui a eu un accident, c'est un aveugle de naissance, c'est pas rien. Aujourd'hui, notre médecine peut faire des tas de choses, mais un aveugle de naissance, est-ce qu'on lui a déjà rendu la vue ? Non, on peut améliorer la vision de certains, on peut aider certains à remarcher un petit peu, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Même si la science progresse depuis des siècles, on ne guérit pas d'aveugles de naissance. Alors est-ce que c'est pour cette raison que Jésus avait besoin d'un peu de terre ? Est-ce que Jésus a besoin de ça ? On est tous d'accord que non. Est-ce qu'il fait ça un peu pour faire le spectacle ? N'est-ce pas ? Ça va peut-être plus impressionner les gens. Regardez ce que j'arrive à faire avec de la boue. Et regardez aussi, je sais multiplier les pains. Non. C'est pas cette vision-là qu'on a de Jésus, même si certains dans le monde le voient un peu parfois comme un amuseur public, comme un beau parleur. Non, Jésus a autre chose. Pourquoi il met un peu de boue sur cet aveugle et il l'a pas fait pour d'autres ? Jésus est Dieu, par extension, a cette capacité à s'adapter à chacun. C'est quelque chose qu'on nous a appris dans l'éducation nationale, hein. Par exemple, une sanction doit être adaptée. Et parfois, pour deux faits identiques, on ne va pas mettre la même sanction à des élèves différents, parce qu'on s'adapte à la situation de chacun, et parce que lui n'avait aucune excuse, alors que lui, en ce moment, il traverse des choses difficiles, on va être un peu plus compréhensif. Et on va adapter chaque situation à chaque personne. Enfin, on va essayer au mieux, avec nos imperfections, bien sûr. Et Dieu fait pareil. Quand la parole dit qu'il se fait tout à tous, qu'il ne fait exception de personne, Dieu nous connaît tous. Et il est venu tous nous chercher d'une manière unique et d'une manière personnelle, parce qu'il nous connaît. Et à cet aveugle, il va dire « Va te laver ». Tout comme il a été dit quelques siècles plus tôt à un général syrien, vous vous souvenez ? Naaman, va te laver dans ce fleuve, va te plonger, et tu seras pur. Ce général avait dit « Mais pourquoi ? Des fleuves, on en a des meilleurs, nous. » Pourquoi irais-je faire cela ? Moi, je suis venu chercher autre chose, un miracle, peut-être quelque chose d'un peu plus impressionnant. Mais c'était une mise à l'épreuve. Et peut-être que cet aveugle-là avait besoin aussi de cette mise à l'épreuve. Et parfois, Jésus a guéri directement parce qu'il voit dans les cœurs ce que nous, on ne voit pas. Mais cette fois-ci, Jésus a dit « Va te laver ». Et cet homme y a été. On le voit pas comme Naaman commencer à rouspéter, à repartir en sens inverse en disant « Bah si c'est ça Jésus, on m'a menti, il guérit les gens, et pourquoi moi il me guérit pas ? Pourquoi je dois aller faire ci ou ça ?» Non. Il y a été, et il a été rendu pur. Il a pu voir à nouveau. Quel rapport avec la montagne, me direz-vous ? Eh bien Dieu, parfois, peut faire des miracles, et peut faire des choses directement, sans qu'on ait à intervenir de la moindre façon. Et parfois autrement, comme sur cette première image qu'on a vue tout à l'heure, Dieu nous demande un peu d'effort. Ça peut être d'aller se laver à côté, dans une piscine. Ça peut être un peu plus. Mais Dieu nous demande de gravir des montagnes. Enfin, des montagnes. Ça nous paraît des montagnes, n'est-ce pas? Est-ce qu'aller se laver dans un fleuve, c'est une tâche compliquée? Pourquoi un général refuse ça? Comme ses serviteurs lui ont dit avec sagesse, il t'aurait demandé quelque chose de plus difficile, tu l'aurais fait. Mais parfois, ce qu'on nous demande, ça nous paraît inconcevable. Parce que ça dépasse notre logique, ça dépasse notre sagesse, ça dépasse nos habitudes. Et on voit ça, comme sur cette image, comme une montagne parfaitement escarpée, limite inaccessible. Et moi, petit, je me disais, mais comment je vais arriver là-haut? La première fois qu'on a monté la montagne avec Anne-Marie, alors on dit monter la montagne, mais vous allez sourire, on a grimpé la roche de Solitré. Mais pour elle, elle avait 2 ans, la première fois. Et c'était une montagne. Et elle l'a montée seule. Et son père, bienveillant, a trimballé la poussette tout du long. Pour rien! Puisque finalement, elle n'en a pas eu besoin. Elle était tellement fière. Et nous, on l'encourageait, on était une championne. Bravo, t'as monté la montagne. Et elle est arrivée au sommet. Et elle en a reparlé. Et régulièrement, on continue de retourner à Solutré, à monter cette montagne, qui a un peu plus de vitesse maintenant. Mais pour elle, c'était un exploit. Elle avait monté la montagne. Si vous regardez, on est capable d'envoyer des trucs dans l'espace, on est capable de faire des tas de choses. Mais ne serait-ce que la montagne la plus haute sur Terre, est-ce que quiconque ici est capable de la gravir? Même les alpinistes les plus chevronnés ont besoin d'aide, d'assistance, ont besoin d'oxygène. Beaucoup y ont perdu la vie. Et encore chaque année, il y en a qui y meurent en essayant de monter cette montagne. Et pour quelle raison? Est-ce que la vue d'en haut est plus jolie? Ah, il y a certainement beaucoup d'orgueil chez certains. Il y a peut-être d'autres raisons pour d'autres. Mais est-ce que vous êtes prêt à monter la montagne que Dieu vous demande de gravir? Est-ce que ce matin, comme certains au bord de la route, vous attendez que Jésus vous guérisse sans rien faire? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il vous demandera de faire, quelle que soit la chose? Ça peut être une chose simple, comme pour cet aveugle, va te laver. Il lui a pas demandé de faire des choses compliquées. Dans un autre contexte, dans la bataille de Jéricho, par exemple, Dieu leur demande de faire le tour de la ville. Alors, est-ce que c'est compliqué? Non. Mais pour d'autres, ça a été peut-être un peu plus compliqué. Et je vais parler d'un personnage en particulier que j'aime beaucoup, Moïse. Moïse, alors on pourrait parler sur Moïse et la montagne, il y a beaucoup de passages intéressants. Mais Moïse, Dieu vient lui demander de gravir une montagne trop haute pour lui. Dieu vient le voir et lui dit « Va parler à Pharaon ». Déjà nous, des fois, on a du mal à parler, ne serait-ce qu'à sa belle-mère ou à son collègue, n'est-ce pas? Parfois, dire « Je suis chrétien et puis j'aimerais te parler de Dieu », c'est tellement difficile avec certaines personnes. C'est facile avec d'autres. Et parfois, ça nous paraît des montagnes insurmontables. Mais là, il ne s'agit pas de sa belle-mère ou de son collègue, il s'agit de Pharaon. Un homme qui est capable de l'envoyer en prison à vie, qui est capable de le faire tuer sur place. Un homme qui est tout puissant dans son pays, qui a droit de vie et mort sur tous ses sujets. Et je vais pas relire et on va pas projeter non plus tous les chapitres, mais vous pouvez lire dans Exode 3 l'appel de Dieu à Moïse, qui se continue dans Exode 4, et puis après la suite de l'histoire, que je vais résumer par morceaux. Dieu dit à Moïse, « Va parler à Pharaon. Va lui dire, en plus, des choses qui vont lui déplaire. » Il n'envoie pas Moïse dire à Pharaon, « Tu gouvernes bien, bravo, Dieu va te bénir, n'est-ce pas ?» Il lui envoie dire, « Va et demande-lui de libérer mon peuple. » On est d'accord qu'aujourd'hui, avoir une main-d'œuvre gratuite, c'était quand même quelque chose de sympa pour un dirigeant. Surtout pour un peuple qui adorait construire des monuments monstrueusement grands, qui adorait faire des statues pour des dieux inconnus. Ils avaient besoin de cette main-d'œuvre-là dans leur économie. Faire partir des milliers d'Hébreux qui étaient esclaves et qui leur permettaient de construire tout ce qu'ils voulaient gratuitement, C'est quand même bien déséquilibrer le pays, n'est-ce pas? Et puis, quelle image ça va donner de Pharaon s'il les laisse partir? Quelle image de faiblesse devant son peuple? Et Dieu dit à Moïse, va gravir cette montagne pour moi. Que fait Moïse? Il y va plein de bonne volonté, vaillant et avec zèle. Non, Moïse répond à Dieu, non. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Puis qu'est-ce que je vais lui dire? Puis qui m'enverra? Et puis, n'y a-t-il pas d'autres personnes? N'est-ce pas? Il y a plein d'autres alpinistes que moi qui peuvent montrer l'Everest, j'ai pas besoin de le faire. On est tous d'accord avec ça. Envoie quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup Moïse parce que Moïse est très humain. Et Moïse a peur. Parce qu'il se met en bas, il voit la montagne tout là-haut, et au lieu de regarder un pas après l'autre, à regarder simplement devant soi, il regarde au loin et il se dit « Mais c'est trop loin, c'est trop haut pour moi. Je ne peux pas le faire. Envoie quelqu'un d'autre le faire pour moi. » Et Dieu insiste, parce que Dieu nous connaît, parce que Dieu connaît Moïse aussi. Dieu insiste et Dieu encourage Moïse. C'est pas juste « Tu vas le faire, point, sinon je te foudroie sur place, c'est réglé. » Non, on n'a pas un Dieu comme ça. Dieu insiste, mais il l'encourage en disant « Je serai avec toi. Voilà, je te donne des signes pour montrer à Pharaon que je t'ai donné de la puissance, que tu es pas n'importe qui, pour montrer que je suis avec toi. Je vais envoyer même Aaron avec toi pour t'aider à parler. Je ne te laisserai pas seul, mais tu vas le faire. Tu vas aller vers Pharaon. » Et Moïse a été vers Pharaon et a fait ce que Dieu a demandé. Est-ce que vous, vous gravissez les montagnes que Dieu vous demande de gravir? Quand je dis vous, c'est très accusateur. Est-ce que moi, je gravis les montagnes que Dieu me demande de gravir? Est-ce que j'ai pas tendance, comme ces espions qui revenaient de Canaan, à dire « Les murailles sont trop hautes, il y a des géants, les peuples sont trop forts pour nous, on ne va pas y arriver. » Ou est-ce que, comme ces deux espions parmi 12, à dire « Mais c'est un beau pays que Dieu nous a promis. » Et puis Dieu est avec nous. Aucun problème. Je pense que j'aurais tendance à être des deux suivant les situations et suivant les moments. Et parfois, on voit les murs trop hauts pour être franchis, les montagnes trop hautes pour être grimpées, et on se dit non, ce n'est pas à moi de faire cela. Mais si je reprends l'image de la montagne, est-ce que vous voyez la taille que ça a, une montagne? Alors, Solutré, c'est quelques centaines de mètres. Mais déjà, ça faisait beaucoup pour nous. Les montagnes les plus hautes, c'est quelques kilomètres. Comment nous, on serait pas prêts à gravir quelques kilomètres, alors que notre Dieu, il a fait quelle distance, lui, dans l'autre sens, pour venir jusqu'à nous? Combien de millions de kilomètres a-t-il parcouru pour nous? Et au-delà de la distance, combien dur ça a dû être de s'abaisser à ce point pour venir en tant qu'être humain sur Terre? Lui qui était tout puissant, assis dans le ciel, dans les lieux élevés, comme on le disait tantôt. Comment nous, on peut être là à râler en disant « Mais j'ai ça à gravir », alors que lui, il vient de descendre tout ça. Et si on regarde, on pourrait dire « Moïse a été, Moïse a fait ». Mais il a fait quoi, Moïse? Il a fait quoi? Il a fait ce que Dieu lui a demandé, il a parlé. Mais qui a agi derrière? Est-ce que c'est Moïse qui a lancé les plaies? Ou c'est Dieu? Est-ce que c'est Moïse qui a ouvert la mer? Ou c'est Dieu? Au final, on a l'impression que Dieu nous demande des choses énormes, mais nous demande juste de suivre ce qu'il a prévu, et c'est lui qui fait tout. Qui a fait tomber les murailles de Jéricho? Est-ce que c'est le peuple qui, à force de tourner, a déstabilisé le sol? Et puis il y avait certainement des fissures dans les murs, et puis ça a fini par tomber, elles devaient être vieilles, ces murailles. Non, le peuple a obéi, a accompli ce que Dieu a demandé. Il a gravi cette montagne pour Dieu. Mais au final, c'est Dieu qui a tout fait. Si on regarde la vie de Moïse, on pourrait dire quel grand homme quand même. Il a été vers Pharaon. Il a dirigé un peuple qui lui était hostile et qui plusieurs fois a voulu même le mettre à mort et le remplacer. Et il a continué de les diriger, de les aimer. Il a continué de suivre Dieu. On pourrait dire quel grand homme. Mais si on regarde ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, Dieu a lancé des plaies que personne aujourd'hui ne serait capable de reproduire. Dieu a ouvert la mer. Dieu a dirigé son peuple dans une colonne de nuée, dans une colonne de feu. Dieu a fait tomber du ciel de la nourriture pour tout un peuple pendant 40 ans. Qui ici peut faire ça? Et quand on regarde aussi cette histoire de cet aveugle, on pourrait se dire, bah, il a été à la piscine, il s'est lavé, quelle foi! Qui aurait pu croire qu'un peu de boue peut guérir un aveugle né? Et on pourrait louer cet homme en disant, il a été sage, il a eu de la foi. Mais qui a fait tout le travail de la guérison? On a bon nombre d'exemples encore qui sont dans la Bible, n'est-ce pas? Et qui nous montrent que Dieu nous demande au final de très petites choses par rapport à ce qu'il va accomplir derrière. Mais nous, comme des petits enfants devant une montagne énorme, on la voit d'en bas et on se dit, mais comment arriverai-je là-haut? Bien, comment y arriver? Comment gravir les montagnes que vous avez au quotidien? Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre santé, n'est-ce pas? On a tous des raisons de s'apitoyer. On peut regarder ne serait-ce que les informations à chaque fois quelques minutes, à part de temps en temps une nouvelle un peu heureuse. On n'a que des mauvaises nouvelles qui nous entourent. Encore aujourd'hui, 5e vague, n'est-ce pas? Et si on regarde le monde chrétien, que de persécutions, que de difficultés. Et on pourrait tous voir les montagnes autour de nous comme étant trop hautes, les murailles autour de nous comme étant insurmontables, et les peuples autour de nous comme étant trop forts pour être vaincus. Et on aurait raison de le faire en tant qu'être humain, si on était seul. Mais, nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Mais nous avons un Dieu qui nous demande de faire des choses pour lui, mais un Dieu qui a montré dans sa parole, au travers de Moïse ou d'autres, à quel point il était capable de faire des choses extraordinaires, au travers de nous. Au travers de Jésus, notamment, il a guéri quelque chose qu'aujourd'hui encore on ne sait pas guérir. Et simplement, si on regarde à la vie de Jésus maintenant, on n'est plus face à un Moïse qui hésite, qui veut pas, qui refuse. Mais Jésus, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de sa vie? Dans Luc, on laisse un peu de temps à la technique. Luc, je t'ai pas dit Luc? Eh bien dans Luc, c'est ça de pas avoir de notes. Je vais le faire numéro. Luc 22. C'est ça. Merci. Luc 22, 39. Dans Luc 22, 39, peu avant que Jésus passe par tout ce qu'il a dû passer pour nous sauver, il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ce qui est marrant, c'est que déjà, Jésus lui-même, comme la parole le montre, comme le disait Christine tout à l'heure, les lieux de rencontre avec Dieu, c'est souvent les lieux élevés, c'est souvent les montagnes, n'est-ce pas? On peut penser au mont Sinaï, au mont des Oliviers. Jésus se rend dans la montagne pour prier. Pas pour prier comme Moïse et dire « Envoie quelqu'un d'autre », mais pour prier en disant « Si tu peux éloigner de moi cette coupe ». C'est un moment difficile pour Jésus. C'est un moment où il sait ce qui va se produire. Il est venu pour cela. On parle dans la Bible d'agonie, de calvaire. On parle de sueur avec du sang. Des choses que je pense aucun de nous n'avons connues ou ne connaîtrons jamais. Une montagne certainement trop haute à gravir encore. Pourtant, il ne prie pas juste en disant « Éloigne de moi ». Il prie en disant « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et c'est à partir de là que Jésus a la victoire. C'est à partir de là où dans nos vies, nous avons la victoire. Qu'en lieu de dire « Cette montagne est trop haute pour moi », je dis à Dieu « Fais ta volonté, non la mienne. » Alors vous allez grimper des sommets que vous ne soupçonniez pas. Vous allez arriver bien plus haut que ce que vos propres forces auraient pu vous amener. Et ce chemin escarpé de tout à l'heure qui mène à des endroits qui nous paraissent si lointains et inaccessibles, il sera plus si inaccessible que ça. Dieu ne nous demande pas grand-chose. J'ai la grâce d'être devant vous ce matin, et c'est bien parce que vous êtes gentil, vous êtes chrétien. Dieu m'a pas envoyé devant un pharaon qui croyait en d'autres divinités, orgueilleux et capable de me mettre à mort. Et je remercie Dieu pour cela. Mais certains encore parmi nous, à notre époque, sont envoyés parfois vers des personnes qui ont la capacité de les mettre à mort, qui ont la capacité de tuer leur famille, leurs amis, leurs voisins, leur église. Et je remercie Dieu parce que ce qu'il nous demande n'est pas trop difficile pour nous parce qu'il nous connaît. Et Dieu ne vous demandera jamais quelque chose qu'il ne puisse vous donner la capacité d'accomplir. Et quand on lit la Bible, on a parfois ce sentiment un petit peu d'infériorité en se disant « Mais tout ce qu'ils ont fait quand même, ces grands hommes avant moi, est-ce que moi-même je serais capable d'accomplir cela ? Est-ce que comme un Étienne, je serais capable de me lever face à une foule en colère et de continuer de prêcher le message de Jésus ? Et de finir lapidé comme il a fini ? Certaines montagnes nous paraissent trop hautes pour nous-mêmes. Parce que bien souvent, nous regardons à nos propres forces. Et nos propres forces, aussi fort soyez-vous, sont bien limités. Mais si nous faisons nôtre cette prière de Jésus, « Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Si nous faisons nôtre toutes ces merveilleuses promesses que Dieu nous a données, où il nous a dit qu'il ne nous laisserait pas, qu'il serait avec nous. Je parlais de persécution, il a dit aussi « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. » « Je parlerai dans vos bouches. » Si nous croyons tout cela, au final, est-ce que toutes ces montagnes énormes ne ressemblent pas à la roche de Solutré ? Oh, quelques efforts, mais pas tant que ça. Et tant de joie d'arriver en haut. On pourrait regarder à beaucoup de passages, beaucoup de personnages. Mais ce matin, j'aimerais vous laisser juste cette idée-là. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu nous demande trop. Et c'est souvent le discours qu'on a. Moi, ça m'est arrivé d'évangéliser, surtout auprès de jeunes, qui disaient « Mais non, mais c'est trop de sacrifices d'être chrétien. Je dois renoncer à ça, à ça, à ça. Je devrais m'affirmer comme différent. » Et aujourd'hui, la pire chose qu'on puisse faire, ça, je le vois bien au collège, c'est être différent des autres. C'est être quelqu'un qui dit non au mensonge. Quelqu'un qui est prêt à ne pas se mettre en avant. Quelqu'un qui est prêt à reconnaître qu'il est faible et qu'il a besoin d'un Dieu. Pour beaucoup de nos contemporains, c'est trop de sacrifices à faire. Un peu comme les grains de blé qui tombent sur les chemins rocailleux et où ça pousse un peu, mais dès qu'il y a besoin d'aller chercher un peu profondément de l'eau et des nutriments par les racines, bah, il n'y a rien. Ça sèche au soleil. Alors ce matin, si vos montagnes vous paraissent trop hautes pour être franchies, si les murailles qui vous entourent vous paraissent trop solides pour être détruites, alors regardez à Dieu et dites simplement « Ta volonté, non la mienne. Je veux te faire confiance. » Et vous verrez où vous finirez par arriver. Qui aurait pu croire que Moïse, un berger, en fuite dans un pays étranger, recherché pour meurtre. C'est pas un super casier, hein. Aurait pu diriger tout un peuple. Tenir tête à la première puissance économique de l'époque. Ouvrir la mer, etc. Qui aurait pu croire que un David, jeune berger, dernier né de d'une nombreuse famille, et à l'époque, être le dernier, c'était pas bon signe, hein. Eh ben, ils deviennent rois, et ils règnent sur Israël pendant des décennies. Qui aurait pu croire qu'un Jésus, fils d'un charpentier, né dans une étable, puisse être ce roi de gloire qu'on connaît. Alors ne nous abaissons pas. Comme l'a rappelé Christine, nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Et nous avons de grandes choses à accomplir, mais nous avons notre part à faire. Nous ne pouvons pas dire simplement « Seigneur, agis » et puis nous attendre qu'il agisse. Nous avons quelques efforts à faire. Efforts qui sont à notre hauteur et efforts qui seront possibles grâce à Dieu. Et je vous invite à relire un peu, si vous le souhaitez, les différents passages où la Bible parle de montagne et à voir comment Dieu s'est révélé à son peuple de cette façon-là. Et Dieu demande à Moïse de gravir la montagne pour venir à sa rencontre. Et nous, on va regarder toujours au trajet de l'homme, n'est-ce pas? À cette petite distance, n'oublions pas tout ce que Dieu a fait comme chemin pour venir jusqu'à nous. Pour conclure ce message, je vais simplement vous inviter à écouter un chant. Vous voyez que je me mets à la louange, moi aussi. Peut-être que nous chanterons ce chant un jour, mais là, je vais simplement vous demander de l'écouter. J'ai ma femme qui me fait des signes. On va écouter le chant, on va voir ça après. D'accord? Merci. On va simplement écouter un chant qui est tellement beau que par exemple Mathieu l'a entendu une fois hier, c'est ça? Et tout de suite, il l'a voulu. Je vais laisser ce temps où vous allez pouvoir écouter ce chant, écouter ces paroles. Et puis je reprendrai après pour la fin du culte. Vers les hauteurs.
ce monde annoncer ton grand amour, que ma fidélité reflète ce jour. Je reviendrai là où coule l'espérance. Je reviendrai m'abreuver de ta présence. En ce lieu saint prosterné, tiens-moi pour l'éternité. Je
tiens-moi pour l'éternité, je veux.